Bonjour et bienvenue à tous dans la matinale. Ah, ils sont chauds ce matin, ils sont chauds. Voilà, un petit trou de mémoire peut-être, je sais qu'il est tôt, alors voilà, laissez-moi vous remettre dans le contexte. La matinale infernale, c'est l'émission de Graphite qui... en partenariat avec les bibliothèques de Compiègne. Le principe formait des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio et enregistrer leur production sous forme d'émissions, notre matinale infernale. Moi c'est Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite comme La Voix de la Plume ou les rendez-vous culture des bibliothèques. Ce matin, avec moi, mes chroniqueurs sont des participants d'ateliers organisés à la bibliothèque Saint-Corneille tous les mercredis soirs. Notre plus jeune chroniqueur du jour a seulement 13 ans et est même entouré d'adultes, rien ne l'arrête. Mes chroniqueurs ont choisi des thématiques variées à partager avec vous dans la bonne humeur, évidemment. Je souhaite la bienvenue dans le studio ce matin à Miss Kilt.
Hello.
À la marin baladeuse.
Coucou.
À Bad Cave.
Salut.
Jules.
Bonjour.
Et à Psycho.
Enchanté.
Un ami qui vous veut du bien, évidemment. Il se pourrait même que je sois moi aussi chroniqueuse au même titre que mon équipe.
Oui.
Yeah.
Eh bien. Bon, notre amie Fatih la féministe n'est pas avec nous ce matin, mais faisons-lui honneur, les dames d'abord. On commence d'ailleurs en douceur ce matin. Oui, oui, c'est une reprise pour nous aussi. Partons nous promener avec la marin baladeuse.
C'est un petit chemin qui sent la noisette. Ce petit chemin n'a ni queue ni tête.
La marin baladeuse et gourmande, une invite littéraire à cheminer et déguster peut-être. Sur les traces de Marcel Proust. Il n'est pas de temps perdu à flâner sur des chemins. Peut-être êtes-vous déjà allé vous perdre sur ceux empruntés par Marcel. Les descriptions de ces pérégrinations ont la force de réveiller en nous des souvenirs enfouis. Des images, des sons, des odeurs, des émotions sensorielles que l'on pensait indicibles. Tout surgit alors, comme un court-circuit dans les méninges. Une étincelle et tout s'éclaire. Le petit bosquet verdoyant, les aubépines, les parfums. Marcel ne les connaît pas, ces éléments extirpés de votre mémoire. Marcel ne les sait pas. Et pourtant, il les a mis en mots. Alors, allons-y. Avant de nous engager dans les méandres des chemins, savez-vous que le 14 novembre 1913, Marcel Proust publie à compte d'auteur le premier ouvrage de la recherche, du côté de chez Swann. Incroyable ! Il y écrit « Si mes parents m'avaient permis, quand je lisais un livre, d'aller visiter la région qu'ils décrivaient, j'aurais cru faire un pas inestimable dans la conquête de la vérité. La Côte de Grâce, Honfleur, La Butte, une chapelle. Cette première chapelle érigée par Richard II de Courteheuse, duc de Normandie, en raison de sa survie d'un naufrage en mer. Le sanctuaire date de plus de 1000 ans. La vue sur l'estuaire de la Seine y est vraiment imprenable. Mais je vous entends derrière votre radio. Pourquoi nous parle-t-elle de Honfleur ? Marcel Proust, c'est Cabourg, c'est Trouville. Oui, bien entendu. Mais c'est Honfleur aussi. Et Marcel donne des conseils de promenade. Je vous envie des clairs de lune qui opalisent le fond de la vallée, à faire croire que c'est un lac. Je me souviens d'une nuit où je suis revenue d'Honfleur par ces chemins d'en haut. À chaque pas, nous butions dans des flaques de lune et l'humidité de la vallée semblait un immense étang. Par ailleurs, Honfleur est sous le feu de l'actualité. En effet, croyez-vous qu'en juillet 2023, le curé de la paroisse a transmis une demande à l'évêque afin de voir son lieu de culte converti en basilique ? Rien que cela. Mais je digresse. Revenons à nos déambulations. Marcel, accompagné de sa bande d'amis, se rend sur la Côte de Grâce, au-dessus de Honfleur. Pour se rendre à la chapelle, il est passé, c'est certain, par la rue de l'Homme de Bois. Quel joli nom, n'est-ce pas ? Peut-être s'en est-il ému. l'odonymie, c'est-à-dire l'étude du nom des rues, nous apprend ce que signifie la rue de l'homme de bois. L'homme de bois fait référence au commerce triangulaire, vente d'esclaves et de produits sur trois continents, qui fut un pan de l'activité économique du port de Honfleur au XVIIIe siècle. Par homme de bois, il faut comprendre homme de bois d'ébène, nom utilisé pour désigner la couleur des esclaves. Au 27 de la rue, on peut voir une sculpture encastrée dans la façade, censée représenter ce fameux homme de bois. Mais nous quitterions-nous sans parler de dégustation évoquée plus haut ? Vous pensez trop fort. J'ai entendu souffler « la madeleine ». Eh bien non, ce sont les asperges. Trempées d'outre-mer et de rose, et dont l'épi finement pignoché de mauve et d'azur se dégrade insensiblement jusqu'aux pieds, encore souillés pourtant du sol de leur plan, par des irisations qui ne sont pas de la terre. Je vous laisse découvrir la suite qui met l'eau à la bouche. Toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elles jouaient dans leur farce poétique et grossière, comme une féerie de Shakespeare, à changer mon pot de chambre en un vase de parfum. À bientôt pour la suite de notre balade à Trouville cette fois-ci.
Merci la marin d'avoir ouvert le bal. Et puisque ce petit bout de chemin avec Proust nous a tous mis en haleine, je propose que nous délaissions gentiment le nord de la France pour le nord du Royaume-Uni. Miss Kilt, c'est à toi.
Mais il pleut tout le temps en Écosse.
Non, sauf quand il fait beau. L'Écosse, pays connu de tous, reste toujours un peu mystérieuse. Ses brumes éparses et romantiques lui procurent un charme onirique et attirant. Le nombre croissant de visiteurs en témoigne. Et bien sûr, cela fait les affaires de son économie touristique. En effet, l'authenticité encore très rurale, les traditions et les paysages de toute beauté de ce magnifique pays séduisent de nombreux touristes amateurs de grandes étendues verdoyantes. Mais il pleut tout le temps en Écosse.
Non.
Réputée pour être très arrosée, l'Écosse n'est pourtant pas le pays d'Europe où il pleut le plus. Et oui, ce serait la Norvège qui détiendrait ce record.
Oh, bah, dis donc.
Pour poursuivre avec nos statistiques pluviométriques, en Écosse, c'est à Glasgow qu'il pleut le plus, avec 170 jours de pluie par an. Alors qu'à Édimbourg, la capitale du pays où je vous emmène aujourd'hui pour commencer nos balades, il n'y a que 124 petits jours de pluie par an.
Oh, rien du tout.
Pas grand-chose.
Édimbourg, Edinburgh en anglais, mot imprononçable pour beaucoup d'entre nous.
Edinburgh.
Edinburgh.
Mais peut-être plus facile à dire en écossais, car les véritables écossais roulent les R. Ce qui nous donnerait un vague Edinburgh.
Edinburgh. Edinburgh.
Cela dit, je vous rassure, on s'en sort toujours en parlant anglais ou dans le pire des cas, en faisant des signes. Car les Écossais sont plutôt charmants, serviables et accueillants et aiment bien plaisanter. Marcher, flâner, voici la meilleure solution pour découvrir le cœur historique d'Édimbourg. Bien qu'elle soit riche en activités et en lieux à visiter, la superficie de la vieille ville est assez réduite. Quelques heures dans ce ravissant petit écrin et l'on est imprégné par une ambiance chaleureusement médiévale. Capitale charmante et dépaysante, je vous l'assure, Édimbourg est un bijou qui mérite le détour. Se promener ou se perdre dans les rues étroites et pavées du centre historique semble nous faire remonter le temps. Découvrir et admirer les bâtiments anciens et escaliers tortueux de ce lieu est un ravissement. Et il est toujours possible d'y faire des rencontres singulières, comme par exemple
le fantôme d'un chevalier du Moyen-Âge nommé William Wallace, plus connu sous le nom de Braveheart. Ce cœur vaillant est un héros dans son pays. Il a voulu défendre l'Écosse des envahisseurs et cupides voisins anglais. Et pour cette cause, il s'est sacrifié. Véritable chef de guerre, il décide d'affronter l'armée anglaise. À la tête des clans écossais unis, il gagne la bataille de Stirling en 1297, suite à laquelle il est nommé gardien de l'Écosse. Mais Édouard Ier d'Angleterre ne l'entend pas ainsi et reprend le contrôle de l'Écosse. William Wallace est donc recherché comme un hors-la-loi, puis capturé et exécuté comme traître en 1303. Ce héros écossais mérite largement ces quelques lignes et les nombreux monuments érigés en son honneur. D'ailleurs, au château d'Édimbourg, vous pourrez admirer son imposante statue placée à droite de l'entrée. Elle a été ajoutée à la façade seulement au siècle dernier. En 1929 exactement. Chaque jour, de nombreux touristes franchissent l'entrée du château et passent à côté sans le savoir. Donc, lorsque vous passerez cet endroit, n'hésitez pas à vous arrêter pour regarder la statue de ce combattant pour la liberté. Ensuite, entrez dans le château, symbole incontournable d'Édimbourg. Construit sur un ancien volcan éteint, appelé Castle Rock, il surplombe majestueusement la ville et offre un panorama exceptionnel sur les environs. La visite se déroule comme une promenade. Le porche de l'entrée franchi, on déambule dans les ruelles pavées. Les nombreux bâtiments qui composent le château sont séparés et ainsi les visites se déroulent au rythme et à l'envie de chacun. Il y a tant de lieux à découvrir, comme la résidence de Mary Stuart, reine d'Écosse de 1542 à 1567, et qui fut aussi reine de France par son mariage avec François II de 1559 à 1560. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir sa vie en empruntant le DVD à la bibliothèque de Compiègne. Mais retournons dans les allées du château d'Édimbourg. Plein de lieux vous attendent, comme la grande salle du XVIe siècle où se déroulaient les fêtes et les festins, ou bien engouffrez-vous dans les angoissantes prisons. Mais surtout, ne passez pas à côté de la chapelle Sainte-Marguerite, le plus vieux monument de la cité. C'est un moment très émouvant. Ensuite, ne partez pas sans avoir visité l'un des trois musées où l'on découvre les honneurs de l'Écosse, appelés familièrement les joyaux de la couronne d'Écosse. Ils sont composés d'une couronne, d'une épée et d'un sceptre, de bijoux et de la pierre de Scone, appelée aussi pierre du destin. Vous les avez peut-être vus récemment lors du couronnement de Charles III en Écosse, à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Eh bien, après tout cela, vous aurez soif ou faim. Et à la fin de cette chronique, je vous l'annonce, la prochaine sera très gourmande. Eh oui, il pleut tout le temps en Écosse, mais abrité, on y mange très bien. Si, si, vous verrez.
Merci beaucoup, Miss Kilt. En vrai, il ne serait pas impossible que je retourne en Écosse cet été. Donc si tu pouvais penser à nous faire un point météo plus détaillé lors d'une prochaine chronique.
Je n'hésiterai pas. Il ne pleut jamais, en fait.
En tout cas, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, ils ont aussi de très bons groupes de musique. Je pense à The Cure, par exemple. Mais bon, ce n'est pas vraiment mon domaine. Batcave, si tu nous en disais un petit peu plus avec ta chronique Post-Punk Forever.
Yeah. Salut les optimistes, moi c'est Batcave. Laissez-moi plomber un peu l'ambiance avec ma chronique post-punk. Vous prendrez bien une petite cure de spleen. Je vous assure, c'est excellent pour la santé. Vous avez tous une petite idée de ce qu'est la musique punk et peut-être même en tête le refrain d'une chanson des Sex Pistols, des Clash ou des Ramones, les groupes emblématiques de l'âge d'or. Mais le post-punk, l'après-punk, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quel rapport avec les musiciens à Crète scandant des refrains anarchistes sur trois accords de guitare hyper saturés? Si vous connaissez le groupe The Cure, si vous avez autour de vous un ado de 15 ou de 75 ans qui s'habille et se maquille tout en noir, alors vous tenez le bon bout. Retournons aux origines. Durant les années 90 et 2000, tout ce qui était cool et avant-gardiste dans les années 80 a été copieusement ringardisé. On se souvenait avec un sourire en coin des synthétiseurs en bandoulière, des looks néo-romantiques extravagants, des coupes de cheveux volumineuses. Et peut-être même pour la toile de fond historique se rappelait-on comme de la préhistoire de ce XXe siècle qui mourut probablement en 1989. Mais si, bien sûr, j'évoque la chute du mur de Berlin, la fin de l'Empire soviétique dans le fracas des statues de Marx et de Lénine s'écroulant pitoyablement sur le sol, prise d'assaut par les Européens de l'Est. Les 80s et sa musique pop synthétique, son hard rock aérobique ou encore ses post-punk gothiques à voix d'outre-tombe ont été temporairement relégués au second plan par de nouvelles générations de musiciens. Dans les années 90, il venait plus souvent du hip-hop ou de ce rock néo-hippie sans chichi ni paillettes de la scène grunge de Seattle, Nirvana en tête. Pourtant, depuis une dizaine d'années, les expressions musicales des années 80 vivent un retour en grâce massif et le post-punk, lui aussi, a fait son coming back. Il s'impose comme un courant rock spécifique, codifié, identifiable et adopté par des générations de mélomanes nés après l'an 2000. Comment le reconnaître? Qu'est-ce qui le rend intéressant? Pourquoi de nouvelles générations de musiciens se reconnaissent en lui? C'est ce que je vais tenter de démêler dans cette série de petites chroniques. Vous l'aurez compris déjà, le post-punk est une niche musicale marquée par une certaine noirceur, un certain pessimisme, mais aussi par un esthétisme sophistiqué et théâtral. C'est un style qui ne fait pas exactement dans la gaudriole et qu'on soupçonne même de tout prendre au tragique. Pourtant, j'ai pensé, pour démarrer cette initiation express, à vous faire écouter un sketch, une parodie de post-punk imaginée par un groupe de hip-hop français. Il s'agit d'un petit titre de 53 secondes à peine, un intermède inclus dans l'album Ombre et Lumière du groupe de rap marseillais IAM, sorti en 1993. Ce gag, intitulé « Achevez-moi », digne des sketchs des inconnus, brosse une caricature des groupes et des fans de post-punk tendance Cold Wave, sa version la plus froide et électronique. Écoutez bien les paroles. Vous entendrez le rappeur, Akhenaton en l'occurrence, dresser quelques clichés bien trempés. Tout d'abord, le goût des post-punk pour les atmosphères sombres, lugubres, froides et volontiers post-industrielles. Il chante « J'aime le marbre et les herbes noires, je rêve en secret de vacances en Pologne dans des usines cold ». Bien vu, les post-punks ne portent pas volontiers des chemises hawaïennes et trouvent plutôt de mauvais goût de passer ces vacances au soleil. Ils ont davantage tendance à vouloir plomber l'ambiance et, à l'instar de leur grand frère punk, afficher une attitude « no future » en opposition à un optimisme naïf. Non, mais franchement, les amis, vous trouvez que le monde offre tant de motifs de réjouissance?
C'est vrai, pas trop.
Dit comme ça.
Précisons que la plupart des premiers post-punk originaires sont originaires de villes industrielles britanniques où la classe ouvrière était traditionnellement politisée. Aussi, toute allusion à la désindustrialisation galopante des années 80, au chômage de masse, aux utopies rouges, à l'Europe de l'Est, n'est absolument pas fortuite. Oui, le post-punk est mélancolique, voire il se complaît dans le mal de vivre et rumine des idées noires. C'est d'ailleurs peut-être parce qu'il évoque frontalement la solitude, la déprime, le suicide, qu'il peut agacer, voire créer un malaise. Akhenaton chante « Je veux rester seul, assis dans le coin d'une pièce. Je me sens comme attiré par le vide, le gouffre, le suicide. » Pour terminer, je dirais que comme les poètes du mouvement littéraire romantique 150 ans avant eux, les post-punks chantent la cruauté et l'absurdité d'une existence qui ne fait pas toujours de cadeaux. Ils peuvent être agaçants, oui, mais ils posent une question essentielle, du moins pour une âme sensible de 15 ou même de 75 ans. La vie vaut-elle vraiment d'être vécue ? Allez, achevez-moi.
Eh bien, place à cette parodie dont tu nous as parlé.
Je me sens pas bien. Je veux rester seul. J'ai peur, j'ai froid. Je veux rester seul. Achevez-moi. Oh. Assis dans le coin d'une pièce, je souhaiterais me faire sauter la caisse. Je rêve en secret de vacances en Pologne, dans des usines de colle. J'aime le marbre et les habits noirs. Sentir lorsqu'il y a 800 millibars. Je me sens comme attiré par le vide. Le suicide, enfermez-moi dans mon placard. Venez mourir qu'un an plus tard. Achevez-moi pour mettre un fond dans mon gouffre. Je souffre, je veux rester seul. J'ai peur, j'ai froid. Je veux rester seul chez moi. Oh, chez moi.
Et nous voici de retour, sur Graphite dans la matinale.
Infernal.
Eh ben, il y en a au moins un qui suit aujourd'hui.
Infernal.
Bon, eh bien écoutez, je vais prendre la suite, moi, de ces chroniques infernales. Vous n'êtes pas sans savoir, ou en fait peut-être que si, vous l'ignorez-vous. Voilà, je suis autrice, et oui. J'ai à mon actif sept ouvrages de genres variés, fantasy et biographie notamment. Et surtout, j'aime partager autour de l'écriture. Je reprends donc le flambeau avec ma chronique sur les erreurs des auteurs débutants.
Don't write me off just yet.
Amis autrices et auteurs, scribouilleuses et scribouilleurs, vous avez fini votre histoire? Bravo! C'est une des étapes les plus gratifiantes du travail d'écrivain. Et l'une des plus frustrantes aussi. Pourquoi? Parce que vous croyez que vous avez fini, mais en fait, pas du tout. Un travail d'orfèvre vous attend encore. Vous n'en êtes qu'au premier jet. Arrive le travail fastidieux, mais indispensable, de la relecture et de la réécriture. Laissez-vous quelques jours, voire semaines, pour déconnecter de votre travail. Ensuite, relisez-le avec une grande attention. Une fois, deux fois, dix fois, autant qu'il le faudra. Prenez des notes si besoin. Corrigez les fautes, les erreurs de style et les maladresses que vous voyez. Vous pensez que prendre un correcteur professionnel pourrait vous aider ? Très bien, c'est souvent nécessaire. Alors, vous pensez en avoir fini avec votre manuscrit ? Erreur de débutant. Vous écrivez pour être lu ? Alors, ne négligez pas le rôle des alpha ou bêta lecteurs. Alpha, bêta, quelle différence ? Un alpha lecteur va vous lire dès votre première phase d'écriture. Il lira votre production au fur et à mesure que vous l'écrivez. Vous écrivez un chapitre, vous lui envoyez, il vous fait des retours, vous continuez l'écriture et réitérez au prochain chapitre, etc., etc. C'est un recours pertinent si vous écrivez assez rapidement pour le nourrir et qu'il ne perde pas le fil de votre histoire. Si vous voulez vous assurer d'aller dans le bon sens de l'histoire, ou s'il s'agit d'une saga pour vérifier la cohérence au fil des tomes. C'est souvent intéressant pour les auteurs débutants, dans le cas de premier roman, car c'est aussi un grand encouragement d'avoir quelqu'un qui suit votre travail pas à pas. Et un bêta lecteur alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est celui qui va lire votre premier jet à la fin de sa rédaction, après que vous l'ayez relu vous-même, bien entendu. Le bêta lecteur aura donc le privilège de lire votre roman dans son intégralité. Et c'est utile pour avoir des premiers avis de lecteurs avertis sur votre production, et surtout, évitez de se prendre un mur de critiques au moment de la publication réelle. Alors, comment choisir ces bêta lecteurs ? Eh bien, il faut des personnes qui lisent assez vite, qui ont du temps à consacrer à votre récit, et qui lisent particulièrement le genre que vous écrivez. Pensez à la cible de votre roman. et choisissez des alpha ou bêta lecteurs en fonction de ça, pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé de public. On a tendance à choisir des gens de notre entourage, et c'est bien normal dans un sens. En revanche, il faut être vigilant. Il faut être sûr que ces personnes, qui nous sont proches, donneront un avis sincère, même s'il est mauvais ou mitigé. Et c'est rarement le cas. Nos proches ne veulent pas nous blesser et leur avis est biaisé. Donc, attention. Sinon, il existe des groupes Facebook, Insta et autres réseaux sociaux ou des sites web qui proposent de mettre à disposition leur communauté. Vous pouvez aussi demander à vos profs ou si vous connaissez déjà des auteurs, des libraires, des bibliothécaires. Ce ne seront jamais de mauvais avis, même s'il faudra compléter votre panel. Si vous ne vous sentez pas prêt à prendre des bêta-lecteurs, demandez-vous pourquoi. Mieux vaut un premier lectorat honnête, volontaire et bienveillant pour vous remonter des critiques constructives qui vous permettront de retravailler votre texte pour l'améliorer, que de se prendre un mur au moment d'une publication prématurée. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Alpha, bêta lecteur, à vous de voir. C'est une approche constructive et participative de l'écriture. Et quand on écrit pour être lu, finalement, il n'y a rien d'étrange. C'est aussi l'occasion de se lancer et d'arriver à mettre un point final à un récit. C'est tentant de vouloir toujours modifier, améliorer son écrit. Et je sais à quel point c'est difficile de lâcher prise. Après le travail engagé avec ses premiers lecteurs, on peut prendre une grande inspiration et se dire sereinement « Mon récit est fini. » Eh bien, si l'écriture peut être un remède à de nombreux maux, je connais quelqu'un qui a d'autres méthodes à nous proposer. Psychopathe, révèle-nous tous tes secrets.
Bonjour à toutes et à tous. Connais-toi toi-même. Qui n'a pas encore entendu cette citation millénaire de Socrate ? S'il y a bien une époque où cette citation est d'actualité, c'est bien la nôtre. Après s'être prêté au culte des ancêtres, à la religion judéo-chrétienne, à toute forme d'idéologie politique, économique et scientifique, nous voici épris de nous-mêmes. Nous voici adorateurs de nous-mêmes. En effet, il suffit de constater autour de soi pour se rendre compte que la nouvelle religion n'est autre que le développement personnel. Cette nouvelle philosophie qui a pour but de nous faire explorer et exploiter tout notre potentiel humain pour notre épanouissement complet. Cette doctrine qui n'est qu'à son début envahit progressivement notre environnement socio-culturel et nombre de spécialistes férus lui souhaitent de beaux jours devant elle. Il n'y a qu'à voir comment les médias s'emparent de la question. Pour surfer sur cette vague déferlante, France 2 a lancé depuis quelques années sa propre émission Bel et Bien, où l'on apprend, grâce à ses chroniqueurs, comment faire face à ses peurs. Quelles sont les techniques en vogue pour nous surpasser devant les défis que la vie nous présente. Pareil sur C8 avec son magazine Le Mag qui vous fait du bien. On se voit proposer des conseils pour accepter avec sérénité la souffrance et apprivoiser ses émotions. Sur les ondes radio de France Inter, l'émission « Grand bien vous fasse » nous explique comment construire des liens forts et durables envers ceux qui nous sont chers, être en connexion aussi avec la nature. Pareil en littérature, ça foisonne avec des best-sellers comme « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel, « La gratitude clé du bonheur » avec Patricia Foss.
Je dis que Patty est quand même une de nos chroniqueuses et que nous l'entendrons dans une prochaine émission. Hein.
Exactement, tout à fait. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, ou bien qui n'a pas encore entendu parler de Boris Cyrulnik avec sa résilience, ou suivi les méditations de Christophe André, ou les ateliers philosophiques de Frédéric Renoir. Même à l'école, on apprend avec lui, aux élèves, à mieux philosopher pour mieux apprécier la vie. Sans oublier que sur Internet, c'est l'euphorie avec, par exemple, l'application Petit Bambou qui cartonne, les masterclass qui se vendent comme des petits pains, le yoga et ses gourous innombrables, la méditation, la PNL et j'en passe. Alors pourquoi ce déferlement pour le développement personnel ? comme je disais plus tôt, après avoir consulté les dieux, mais qui ont fait la sourde oreille et inventé sans véritable succès des idéologies politico-économiques censées améliorer notre sort ici-bas, on n'a pas encore vraiment exploré un dernier recoin de l'univers, nous-mêmes, ou plutôt cette fois du par soi-même, pour soi-même, ou comment prendre en main notre bonheur intérieur. Nous trouvons difficilement du temps pour nous consacrer à notre bonheur dû à notre cadence infernale, métro, boulot, dodo. Si nous trouvons du temps, c'est pour nous divertir afin d'oublier nos malheurs, disait Blaise Pascal. C'est pourquoi, heureusement, que le développement personnel a frappé à nos portes, disent certains spécialistes. Oui, notre corps, notre esprit, aussi notre âme ou notre être ont besoin que l'on prenne soin d'eux plus que jamais en une parfaite synergie pour un meilleur rapport à l'univers et à lui-même. Qui n'a pas encore ressenti le besoin de trouver un moment pour soi, d'agir pour un monde meilleur, se réconcilier, se connecter à son être profond, de réinventer un vivre ensemble où chacun trouve sa place, explorer et exploiter les merveilles dont notre être désire nous faire bénéficier, protéger et vivre en harmonie avec la nature, trouver quel sens donner à sa vie, bref, kiffer sa life à donf. C'est toutes ces choses que le développement personnel nous promet. Enfin, à ceux et à celles seulement qui prennent davantage conscience que c'est à chaque individu et non la masse collective d'agir pour un vivre ensemble plus juste. En conclusion, contrairement à Elon Musk qui disait que l'être humain naturel est obsolète et doit être amélioré en fusionnant avec la technologie, nous répondons « l'humanisme n'est pas mort ».
Et non. Et non. Un grand merci, psychopathe, pour cette revue bien-être. Et si le yoga n'est pas encore une discipline olympique, j'en connais un qui compte nous mettre en forme. Pardon. Jules, tu vas tout nous raconter sur les JO.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ma chronique, je vais vous parler des Jeux Olympiques. Petite revue historique, petit et grand moment des Jeux Olympiques, tout va y passer. Les Jeux Olympiques, ce sont 15 jours de pur bonheur, durant laquelle la France entière est devant sa télévision, même les gens qui ne regardent pas spécialement de sport. C'est un super moment quand on les regarde en famille, que l'on juge les athlètes, que l'on fête chaque médaille. Mais réellement, savez-vous depuis quand les Jeux Olympiques existent ?
Oh bah, l'Antiquité, enfin, j'ai pas de date en tête.
Mais... Moyen-Âge.
Les Jeux Olympiques ont été créés en Grèce en 776 avant Jésus-Christ. En tout cas, ce sont les premières traces écrites sur les iconiques Jeux Olympiques. Apparemment, ce serait Héraclès qui aurait créé les Jeux Olympiques antiques en l'honneur de son père, Zeus, une fois accomplis ses 12 travaux. En 393, l'empereur Théodose décida que les Jeux Olympiques ne seraient plus célébrés et il arrêta même l'Olympiade en cours. À cette époque, les Jeux Olympiques antiques ne contenaient que la course à pied, le saut en longueur, le lancer de poids, le lancer de javelot, la boxe, le pancrace et l'équitation. La devise des Jeux Olympiques est « Situs, Altius, Fortus » qui veut dire « plus vite, plus haut, plus fort ». Les athlètes des Jeux Olympiques antiques gagnaient une couronne d'olivier sauvage des mains des Elanodis. Les Elanodis étaient les juges aux Jeux Olympiques antiques. Mais à votre avis, qui gagnait ce précieux vase ?
Le vainqueur de la course ?
Oui, c'est ça. Il n'y avait que le vainqueur qui gagnait ce vase. Il ne donnait aucune importance au deuxième et au troisième. Apparemment, les Jeux Olympiques antiques ont été créés pour commémorer la victoire à la course de chars de Pélops sur Œnomaos, le roi de Pisa, dont il souhaitait épouser la fille. Mais selon vous, qui pouvait participer aux Jeux Olympiques antiques ?
Tout le monde.
Tout le monde, ouais.
Eh bien, la réponse est, c'est exactement ça, c'est tout le monde. Vous pouviez être fermier ou prince, les deux pouvaient participer. Toutefois, les participants étaient le plus souvent des soldats. Les femmes n'étaient pas autorisées à participer, ni même à assister aux compétitions.
Ouh là là, ça fait pas tout le monde, ça. Fatih, elle dirait que ça ne va pas du tout.
Le plus grand athlète des Jeux Olympiques antiques est le grec Léonidas de Rhodes, un athlète du 2e siècle avant Jésus-Christ. Il remporta 12 couronnes olympiques. Pendant 4 Jeux Olympiques consécutifs, il réalisa le triplé des courses dites courtes. Le stadion, qui était la longueur d'un stade, environ 192 mètres, le diculos, d'une longueur de 2 stades, environ 384 mètres, et la course aux armes. À votre avis, comment se déroulaient les Jeux Olympiques antiques ?
Sur plusieurs jours.
Plusieurs jours, oui. Sans
doute. Les Jeux Olympiques de l'Antiquité se déroulaient sur 5 jours. À l'apogée de la popularité...
Seulement ?
Oui. À l'apogée de la popularité des Jeux, 40 000 personnes pouvaient assister chaque jour aux épreuves. Saviez-vous que les Jeux Olympiques dits « modernes » se déroulent tous les 4 ans grâce ou à cause des Jeux Olympiques antiques qui avaient également lieu tous les 4 ans ?
Ah oui, d'accord, c'est le même cycle en fait.
Okay.
Le stade des Jeux Olympiques antiques était en forme de U. Une légende raconte que la mesure du stade, environ 192 mètres, correspond à 600 fois le pied d'Hercule, long de 32 cm.
Waouh.
Amusant.
Le mot olympique vient du mot latin Olympicus. Un deuxième grand homme des Jeux Olympiques antiques, il se nommait Théagène de Thasos, il faisait du pancrace et du pugilat principalement. Petite anecdote rigolote, il était réputé pour son immense appétit. Des personnes ont dit qu'il dévorait un bœuf entier en un repas.
Wow.
À lui seul.
Wow, énorme quand même.
Tu ça nous rappelles ce que c'est le pancrace, Jules ?
C'est un sport de combat, je crois. C'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt et vive les Jeux Olympiques.
Bien, merci beaucoup. Eh oui, vive les JO là, on va être en plein dedans toute l'année de toute façon, jusqu'à la fin de l'été. Eh bien, cette émission touche à sa fin. On va terminer évidemment en musique avec un morceau choisi par l'équipe du jour. Il s'agit de Sports du groupe Viagra Boys. Et si avec ça vous me dites que vous n'allez pas passer un bon week-end, je ne comprends pas. En tout cas, merci à vous mes chroniqueuses, la marin baladeuse et Miss Kilt, et à mes chroniqueurs, Batcave, Psychopathe et Jules.
Merci.
Merci à vous chers auditeurs et auditrices, et je vous dis à bientôt.
À bientôt tout le monde.
Pour une prochaine émission de la matinale
Infernale.
Buying things off the internet.